Charles d'Aubigné. Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Livre 4. Temps contraires à la Réforme en France. Chapitre 1er. Calvin fugitif dans sa solitude d'Angoulême. La religion demande la liberté et les convictions qu'elle inspire ne doivent être contrôlées ni au Louvre ni au Vatican. La conscience appartient à Dieu seul et toute puissance humaine qui s'introduit dans ce royaume et prétend y commander se rend coupable de révolte envers le roi légitime. Ce n'est pas seulement au nom de la philosophie que la persécution religieuse doit être flétrie, c'est avant tout au nom du droit de Dieu. La majesté souveraine est offensée quand le glaive entre dans le sanctuaire. Un gouvernement qui persécute n'est pas simplement illibéral, il est impie. Entre l'âme et Dieu, que nul ne se place. Le lieu où ils se rencontrent est une terre sainte. Éloignez-vous, profane, laissez l'âme avec celui duquel seule elle relève. Ces pensées se présentent naturellement à nous au moment où nous abordons une époque qui vit un fanatisme persécuteur éclater en France, des échafauds s'élever dans les rues de Paris et même une procession royale saluer avec enthousiasme des supplices affreux. Les droits de la conscience que nous rappelons ne sont pas nouveaux. Ils ne datent ni de notre siècle ni du XVIe. Le Sauveur les établit quand il dit « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Dès lors, des voix courageuses ne cessent de les proclamer. Les martyrs, pendant 3 siècles, disent aux empereurs du paganisme « Ne pas me permettre d'adorer le Dieu que je veux, me contraindre d'adorer celui que je ne veux pas, n'est-ce pas faire un acte irréligieux ?» Au IVe siècle, les Athanases et les Hilaires crie au prince arien. Satan emploie la violence, il enfonce les portes avec la hache. Mais la vérité n'emploie d'autres armes que la persuasion. Plus tard, quand les barbares veulent faire plier l'Église sous le poids de la force brutale, le clergé lui-même, longtemps servile, déclare aussi haut qu'il peut que la doctrine religieuse ne tombe pas sous le régime du glaive temporel. Quand donc, au jour sanglant de la Réformation, la puissance de Rome, s'unissant en quelques contrées à celle des princes, voulut contraindre les âmes et par force les soumettre à ses lois, les chrétiens évangéliques, en réclamant à leur tour la liberté, ne firent qu'invoquer le grand principe de Jésus-Christ, jadis adopté par l'Église elle-même. Mais, chose étrange, ce principe qu'elle avait trouvé admirable quand elle avait dû l'employer pour se défendre, elle le trouva impie quand on l'invoqua pour échapper à ses poursuites. De telles inconséquences se retrouvent fréquemment dans l'histoire de notre humanité déchue. Il faut les rappeler, mais avec douleur. Il y a toujours eu dans le sein de la catholicité beaucoup d'âmes généreuses qui ont repoussé avec horreur les affreux supplices au moyen desquels on prétendait faire renoncer nos pères à leur foi. Il y en a maintenant plus encore, et les lois de la liberté religieuse s'établissent peu à peu parmi les peuples. Mais les temps où nous sommes ne doivent pas l'oublier. La Réformation a été accueillie dans le monde par 2 siècles de cruelles persécutions. Quand la Saint-Barthélemy vit le sang ruisseler dans la capitale des Valois, quand des brigands assouvirent leur sauvage colère sur le corps du plus vertueux et du plus grand des Français, Coligny, l'enthousiasme fut immense dans Rome, et le cri d'une joie affreuse retentit alors dans la ville pontificale. Voulant éterniser la gloire du massacre des Huguenots, le pape fit même frapper à l'honneur de ce crime une médaille représentant le massacre avec cette devise « Huguenotorum strages ». Les officiers de la cour romaine, nous l'avons vu de nos yeux, la vendent maintenant à ceux qui veulent emporter de leur cité quelques souvenirs. Ces temps sont éloignés. Des mœurs plus douces s'établissent, mais le protestantisme a charge de rappeler au monde l'usage que la cour de Rome a fait, même après être sortie du Moyen-Âge, de cette prééminence dans les pays catholiques qu'elle prétend lui appartenir toujours et qu'elle est prête à réclamer encore avec la plus grande vigueur. La résistance à cette prééminence cruelle a coûté à la Réformation des torrents du sang le plus pur. Ce sang nous donne le droit de protester contre elle. Avant de raconter les scènes d'horreur qui souillèrent à cette époque les places de Paris, nous devons suivre dans sa fuite le jeune docteur, plus tard illustre, qui était alors la victime d'une autre persécution. Le jour de la Toussaint étant celui où l'université célébrait le commencement de l'année académique, Calvin, nous l'avons vu, empruntant la bouche de son ami le recteur Kopp, avait exposé devant la Sorbonne et en nombreux auditoires les grands principes de l'Évangile. L'université, les moines, les prêtres avaient été émus, scandalisés, irrités. Le Parlement était intervenu. Calvin et Kopp avaient dû s'enfuir. Cet homme, dont la main devait élever avec fermeté dans le monde l'étendard de l'Évangile, dont l'enseignement devait éclairer plus tard bien des peuples, dont la parole remuerait toute la France, qui, de Genève, y enverrait chaque année 30 ou 40 évangélistes et dont les épîtres fortifieraient toutes les églises, cet homme, jeune encore, poursuivi par le lieutenant criminel et ses huissiers, avait dû se jeter dans la rue, se couvrir de vêtements étrangers. Et il se trouvait au commencement de novembre dans des sentiers écartés sur la rive gauche de la Seine, regardant de côté et d'autre si l'on n'était pas sur ses traces. Jamais il n'avait été plus tranquille qu'au moment où ce coup soudain l'avait frappé. François Ier résistait à l'insolence des moines. La Sorbonne avait été obligée de désavouer ses actes fanatiques. Plusieurs luthériens pouvaient évangéliser librement autour d'eux. Un mouvement de réformation semblait s'étendre au loin dans la France. Mais tout à coup, la foudre avait brillé et avait atteint le jeune réformateur. Je croyais pouvoir me consacrer sans entrave au service de Dieu, disait-il dans sa fuite. Je me promettais une carrière tranquille. Mais en ce moment même, ce que j'attendais le moins, la persécution et l'exil, était à la porte. Calvin ne regrettait pourtant pas le témoignage qu'il avait rendu à la vérité et il se résignait à l'exil. Loin d'être semblable au cheval farouche, selon sa propre expression, qui se refuse à recevoir le cavalier, il baissait volontiers les épaules pour porter la croix. N'être pas là au milieu du chemin fut toujours sa maxime. Cependant, il se demandait, dans les rues de sentier du Mantois, qu'il parcourait alors, ce que cette sévère dispensation devait lui apprendre. Devait-il s'éloigner, renoncer à faire de Paris le centre de son activité chrétienne? Ce serait pour lui une dure dispensation. Son peuple semble se réveiller et il faudrait lui dire adieu. Il avançait pourtant. Arrivé près de Mantes, il se rendit au château du sire de Hasseville, dont il était connu, et il y resta caché quelques jours. Puis il se remit en route, soit qu'il se crût trop près de ses adversaires, soit que son hôte eût lui-même quelques craintes. Calvin prit la route du Midi. Il traversa les plaines et les vallées charmantes de la Touraine, arriva au milieu des pâturages et des forêts du Poitou et se dirigea de là vers la Saintonge et l'Angoumois. Cette dernière province était le but de son voyage. Sur une colline, au pied de laquelle la Charente coulait doucement, s'élevaient la cathédrale, l'ancien château et la ville d'Angoulême, patrie de Marguerite de Navarre. Calvin franchit l'enceinte murée de cette vieille cité et arriva dans une de ses principales rues, qui a reçu plus tard en son honneur et qui porte encore le nom de rue de Genève. Dans cette rue se trouvait une vaste maison dont la principale pièce était une grande galerie où plus de 4000 volumes, imprimés ou manuscrits, étaient rassemblés. C'était l'une des plus précieuses bibliothèques qui existassent alors en France chez des particuliers. Le fugitif s'arrêta devant cette maison. Des livres savants étaient sans doute fort propres à l'attirer, mais pourtant un autre motif l'animait. Ce manoir appartenait à la famille Dutillet, dont les membres étaient comptés parmi les hommes les plus instruits du royaume. Le père et deux des fils étaient retenus par leurs charges à Paris, à la Chambre des Comptes, au Louvre et au Parlement. Mais un autre fils, Louis, chanoine de la cathédrale, était à Angoulême, et résidait seul dans cette vaste maison quand il n'était pas à la cure de Clef dont il possédait le bénéfice. Or, Louis du Tillet était l'ami de Calvin et c'était le souvenir de ce jeune homme doux, modéré, un peu faible, mais dont le caractère était plein d'attrait, qui avait porté le fugitif à se diriger vers l'Angoumois. Calvin, donc, s'étant arrêté devant la maison de son ami, frappa à la porte. Elle s'ouvrit devant lui, il entra. Nous ne saurions dire s'il y trouva ou non le chanoine, mais quoi qu'il en soit, celui-ci fut rempli de joie quand il apprit l'arrivée du jeune docteur dont il admirait tant les grands dons et la grâce et dont le commerce lui avait été si doux. Calvin lui apprit l'obligation où il était de se soustraire aux poursuites du Parlement et le danger auquel s'exposaient ceux qui lui donnaient asile. Mais du Tillet, au contraire, s'estimait le plus heureux des hommes s'il pouvait le dérober aux recherches de ses ennemis. Il allait de nouveau jouir de ces conversations si instructives, si vivantes, si lumineuses, qu'il avait tant regrettées et qu'il ne devait jamais oublier. La persécution même dont Calvin était la victime le rendait encore plus cher à son ami. Celui-ci lui en donna les preuves. Il l'introduisit dans la vaste galerie, il l'installa au milieu des esprits les plus éminents de tous les siècles, dont les œuvres célèbres couvraient de nombreux rayons. Il l'établit comme dans une sûre retraite, dans cette belle bibliothèque qui semblait prédestinée à la haute intelligence et au profond labeur du théologien. Calvin, qui avait besoin de recueillement et de repos, s'y sentit heureux. « Je ne suis jamais moins seul que lorsque je suis seul, » disait-il. Tantôt, il rendait grâces à Dieu, et tantôt, sortant de leurs rayons les livres précieux qui l'entouraient, il les ouvrait, les lisait, et apaisait la soif de connaissance dont il était dévoré. Une retraite savante comme celle qui lui était alors donnée fut toujours le rêve de sa vie. De pieuses réflexions se pressaient dans son cœur, et s'il avait eu pendant sa fuite des moments d'obscurité, la lumière se faisait maintenant dans son âme. « Ah ! Disait-il plus tard, les causes de ce qui nous advient sont souvent tellement cachées que les affaires humaines nous semblent tourner et virer à la volée comme sur une roue et que notre chair nous sollicite à gronder contre Dieu de ce qu'il se joue des hommes en les disséminant çà et là comme des balles. Mais l'issue nous montre que Dieu fait le guet pour le salut des fidèles. » Une époque, une phase nouvelle commençait alors pour Calvin. Il sortait de l'école, il allait entrer dans la vie. Une pause était nécessaire. Le futur réformateur, avant de se lancer dans les tourbillons d'une existence agitée, devait se retremper dans le feu de la parole divine et de la prière. De grandes luttes l'attendaient. L'Église se réveillait du sommeil de la mort. Elle rejetait le suaire de la papauté. Elle se levait de la tombe. Un même cri se faisait entendre parmi tous les peuples de l'Occident. Un moine avait demandé la Sainte Écriture de Dieu à Worms en présence de la Diète impériale. Un prêtre l'avait demandé à Zurich. Des étudiants l'avaient demandé à Cambridge. Une assemblée de princes avait déclaré aspire ne vouloir entendre que la prédication de cette parole céleste et ses vivantes doctrines avaient été solennellement confessées à Augsbourg devant Charles Quint. L'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie, toute l'Europe s'agitait à la vue de cette foi nouvelle qui sortait du tombeau des siècles. La France elle-même en était émue. Comment un jeune homme si modeste, si timide, qui redoutait si fort le contact avec les passions des hommes, comment Calvin livrerait-il les combats de la foi s'il ne recevait, dans la retraite du désert, le baptême d'esprit et de feu? Ce baptême ne lui manqua pas. Seul, obligé de se cacher, il éprouva une paix et une joie intérieure qu'il n'avait jamais connues. « Par l'exercice de la croix, disait-il, le Fils de Dieu nous reçoit dans son ordre et nous fait participants de sa gloire. » Aussi donna-t-il à l'obscur Angoulême un nom bien extraordinaire. Il l'appela Doxopolis, ville de gloire. C'est ainsi que ses lettres étaient datées. Oh, que cette retraite lui était agréable et glorieuse! Il avait trouvé sa Wartburg, son Patmos. Et, ne pouvant cacher plus longtemps à ses amis le bonheur dont il jouissait, il écrivit à François-Daniel d'Orléans « Que ne puis-je un instant m'entretenir avec vous, lui dit-il. Non, sans doute, pour vous occuper de mes débats et de mes contestations. Pourquoi le ferais-je? Je pense que ce qui vous intéresse le plus à cette heure est de savoir si je suis bien et que, si l'on tient compte de cette indolence que vous connaissez, j'avance dans mes études. » Puis, après avoir parlé de la bonté de Du Tillet, de sa propre responsabilité, de l'usage qu'il doit faire de ses loisirs, la joie qui remplit son cœur déborde et il s'écrie plein de reconnaissance. « Oh, que je m'estimerais heureux si je pouvais passer dans la paix dont je jouis maintenant ce temps de retraite et d'exil. Le Seigneur, dont la providence prévoit tout, y pourvoira. L'expérience m'a appris que nous ne pouvons découvrir longtemps à l'avance ce qui doit nous arriver. Au moment où je me promettais le repos, l'orage a fondu inopinément sur moi. Et puis, lorsque je pensais que quelque demeure affreuse allait être mon partage, un nid tranquille m'était au contraire préparé. Tout cela, c'est la main de Dieu qui l'a fait. Oh, confions-nous seulement en lui, et lui-même s'inquiétera de nous. » Ainsi Calvin poursuivit, se trouvait à Angoulême, sous la main de Dieu, comme un jeune oiseau chassé par l'orage et qui s'est réfugié dans le nid, sous l'aile de sa mère. Quelle gracieuse image! Le jeune chanoine prenait l'intérêt le plus vif au sort de son hôte, et il espérait voir l'hospitalité qu'il lui donnait porter des fruits précieux pour les lettres et pour l'Évangile. Calvin, trop humble pour croire que les soins de Du Tillet se rapportassent à sa personne, ne les attribuait qu'au zèle de son ami pour la science et pour la cause de Christ. Il lui semblait qu'il ne pourrait répondre à tant de bienveillance que par un travail assidu. Il n'eut jamais autre chose à donner. « Ah, disait-il, la bonté de mon protecteur a de quoi aiguillonner l'indolence du plus inerte des hommes. Allons, courage, faisons des efforts, luttons avec ardeur, pas de nonchalance. » Là-dessus, il se renfermait dans la bibliothèque de Du Tillet, il s'entourait de tous les livres dont il avait besoin. « Je dois donner tous mes soins à l'étude, disait-il. Cette pensée me tire sans cesse par l'oreille. » S'il prenait un moment de loisir, il se sentait l'oreille tirée, c'est-à-dire la conscience bourrelée. Il courait à ses livres et se mettait à l'œuvre avec tant de zèle qu'il passait des nuits sans dormir et des jours sans manger. C'était sa nonchalance. Une grande pensée se formait alors peu à peu dans son cœur. Le Parlement accusait, et même on brûlait ses frères pour de prétendues hérésies. « Faut-il se taire, disait-il, et donner ainsi aux infidèles l'occasion de condamner une doctrine qu'ils ne connaissent pas? Pourquoi les réformés n'auraient-ils pas une profession qu'ils présenteraient à leurs adversaires ?» En parcourant la bibliothèque des Du Tillet, il trouvait certains livres qui lui semblaient plus particulièrement en rapport avec l'état de souffrance dans lequel se trouvaient alors les chrétiens évangéliques. Il voyait que des apologies avaient été offertes jadis à l'empereur Adrien par Quadrate et Aristide, à Antonin par Justin Martyr, à Marc Aurèle par Athénagore. Les amis de la Réformation ne devraient-ils pas présenter une semblable défense à François Ier? Si l'on ferme la bouche à Calvin, il prendra la plume. Dieu le mettait alors à part pour l'une des grandes œuvres du siècle. Il ne composa point sans doute alors son institution chrétienne, même sous la forme élémentaire de la première édition, mais il y pensa. Il approfondit les Écritures. Il traça l'esquisse et écrivit peut-être quelques passages de cet ouvrage, le plus beau que la Réformation ait produit. Aussi, l'un des ennemis de la Réforme, portant un regard sévère sur la savante bibliothèque des Du Tillet, s'écriait-il plus tard, voilà la forge où ce nouveau Vulcain a préparé sur l'enclume les foudres qu'il a lancées dès lors de toutes parts. Voilà l'atelier où il commença à nouer les filets qu'il a ensuite étendus au loin pour surprendre les simples et dont est bien habile qui s'en échappe. C'est là qu'il ourdit la toile de son institution que l'on peut appeler l'Alcoran ou le Talmud de l'hérésie. Pendant que Calvin écrivait ses premières notes, il entendait certains bruits étranges. On lui parlait de quelques matérialistes, selon l'opinion desquels l'âme mourait avec le corps. Il hésita d'abord sur ce qu'il devait faire. « Comment, disait-il, entrer en bataille avec des adversaires dont je ne connais ni l'host, le camp, ni les armes, ni les embûches, et dont j'ai entendu seulement marmotter quelque chose de confus? Une autre considération l'arrêtait. Près d'eux étaient des chrétiens qui, tout en rejetant ces erreurs, disaient que le temps n'existe pas pour l'âme séparée du corps et que le moment de la mort et celui de la résurrection se succèdent immédiatement. « Je ne voudrais pas, disait-il, que ces bons personnages fussent offensés contre moi. » Calvin se refusait à lancer un trait à des ennemis dans la crainte de blesser des frères. Mais un jour, on vint lui rapporter d'énormes et dégradants sophismes. Ces docteurs disaient à leurs adeptes « Dieu n'a point mis dans l'homme une autre âme que dans la bête. L'âme n'est point une substance, c'est seulement une vertu de vie qui provient du souffle de l'artère ou du mouvement des poumons. Elle ne peut subsister sans le corps et périt avec lui jusqu'à ce que l'homme ressuscite tout entier. » Calvin fut consterné. Être homme et se mettre au rang des bêtes lui paraissait à la fois une sottise et une impiété. « Ô Dieu ! Dit-il, l'incendie s'est accru. Il a jeté des flamèches qui, se répandant au long et au large, sont devenues comme des torches ardentes. Seigneur, veuille les éteindre par cette pluie volontaire que tu réserves à ton Église. » Ce grossier matérialisme fut ce qui préoccupa le plus Calvin à Angoulême. Il voyait tout le mal que ses docteurs pouvaient faire à la réforme. Il frémissait surtout à la pensée des dangers qui menaçaient les simples. « Pauvres roseaux, poussés à tout vent, s'écriait-il, ô vous qu'ébranle et fléchit le moindre souffle, qu'allez-vous devenir ?» Puis, s'adressant aux matérialistes eux-mêmes, il s'écriait « Quand le Seigneur dit que les méchants tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme, ne signifie-t-il pas que l'âme survit après la mort ? Ne savez-vous pas que selon l'Écriture, les âmes des fidèles se tiennent devant le trône de Dieu et que des robes blanches leur sont données ? Puis, employant l'ironie, « Esprits dormeurs et ivres, ajoute-t-il, comment interprétez-vous, je vous prie, ces robes blanches ? Les prenez-vous peut-être pour des coussins sur lesquels se couchent vos âmes condamnées à dormir ? » Cette manière d'argumenter n'était pas rare au XVIe siècle. Calvin, agité par ses erreurs, prenait la plume et mettait sur le papier les réflexions qu'il publia bientôt. Calvin aimait à se reposer de ses luttes dans le sein de l'amitié. Il retrouvait les douceurs que la société de Duchemin à Orléans lui avait procurées dans celle du Tillet à Angoulême. Toute sa vie, il chercha ce noble commerce, ses offices, ses bienfaits que l'amitié procure. Même s'il était plongé dans l'étude, il aimait voir s'ouvrir la porte de la bibliothèque, une tête bien connue s'avancer et un ami s'asseoir à côté de lui. Leurs entretiens étaient d'une ineffable douceur. « Nous n'avons pas besoin, disait le jeune chanoine, de ces secrets qu'employait Pythagore pour faire naître entre ses disciples d'indissolubles amitiés. Dieu a mis entre nos âmes une mystérieuse semence et cette semence ne peut point s'amortir. »
Thank you.